Bienvenue dans Les Voix du Digital, le podcast qui vous fait découvrir le numérique, ses actualités, les hommes et les femmes qui le construisent sans complexe et de manière alternative. Je suis Alain Garnier, cofondateur de Jamespot, la plateforme collaborative pour les organisations tournées vers le futur. Futur qui est déjà maintenant si on regarde bien. Et avec mes compères des podcasts, on vous donne les clés de demain. Fermez les notifs, ouvrez les oreilles, c'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue dans Au-delà du live numéro 18, où on explore de manière alternative toutes ces questions numériques qui se sont passées pendant le dernier mois. Et je suis avec Benoît.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Alors, du coup, on va explorer justement un petit peu les éléments marquants, les sujets qui t'ont retenu dans le numérique pour nous donner un éclairage. Donc, quel est le premier sujet qui t'a vraiment marqué du coup?
Alors, le premier sujet qui m'a marqué, Alain, pour ce premier épisode de l'année 2022, hein, on souhaite à tous une bonne année, on commence tout de suite sur les chapeaux de roue. Justement, on va revenir rapidement sur 2021, qui a été une année riche pour le numérique, avec justement les citations de DSI. C'est le site CIO Online qui a proposé à ses lecteurs une rétrospective de l'année, sous la forme de 35 citations tirées de leurs différentes interviews avec des DSI et des décideurs IT. Donc on va pas toutes les aborder, mais je sais Alain que tu as retenu quelques citations, et moi aussi justement, donc on va pouvoir en parler. Je te propose de commencer, quelles sont toi les citations qui ont retenu ton attention?
Alors, donc nos amis DSI, hein, je rappelle, c'est les directeurs des systèmes d'information, donc ils sont au cœur du vortex de la transformation numérique. Le premier, ça a été un DSI qui dit « On n'a jamais connu un tel niveau d'incertitude en 30 ans ». Tu te rends compte, 30 ans.
Ah oui,
C'est-à-dire que là, on a alors soit quelqu'un qui est... qui tout d'un coup se dit « Mon Dieu, le monde change trop vite » ou « Parce que le monde change très vite ». Voilà, ça, oui. J'ai trouvé ça très, très fort d'oser face à ce changement, cette incertitude. Et moi, je trouve que c'est bien aussi que les DSI sont souvent toujours sur deux. Mais on leur demande ça aussi, d'être les gens qui tiennent un peu la machine, d'oser comme ça se mettre à nu. Allez, à toi.
Alors moi, Alain, la première citation que j'ai retenue, justement, c'est sur le cloud. Hein. On en parle beaucoup, nous, chez Jamespot, vu que toutes nos solutions, justement, sont en SaaS, sont disponibles dans le cloud. Et un DSI de dire, pour atteindre les niveaux de sécurité et de disponibilité que nous avons aujourd'hui, il aurait fallu investir lourdement. Avec le cloud, nous avons des niveaux de performance et de sécurité supérieurs. Et en plus, nous avons une élasticité qui nous permet de nous adapter au volume de data qui s'accroît. Donc moi, j'ai choisi ces citations parce que, si tu veux, ça fait du bien aussi de voir un DSI qui dit clairement, vous savez, le cloud, voilà, c'est pas juste une option sur le bas-côté où on se dit, bon, oui, pourquoi pas. C'est maintenant, on dit clairement, frontalement, que le cloud, oui, c'est très utile. Et justement, ça constitue aujourd'hui plus une force pour les organisations pour embarquer justement leur structure dans le numérique.
Vive le cloud. Exactement. Alors, à moi maintenant. Une autre phrase, elles sont vraiment intéressantes ces phrases. Hein, moi, c'est de tourner autour de ça. 100% humain, 100% digital, ce n'est pas un slogan. Et j'adore parce que d'un côté, en fait, c'est un pur slogan. tu vois, ça, t'as l'impression d'être dans une pub, tu vois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le DSI se dit, bah oui, en fait, mon job, c'est être 100% digital. Je suis DSI, mais attention, je dois mettre 100% d'humain, sinon je vais aller dans le fossé. Donc là, il y a quelque chose aussi de choses très intéressant. Et puis, ça renvoie effectivement à remettre de l'humain au cœur du digital. Je sais pas si ça te parle. Ça, il y a une boîte qui avait mis ça comme étant une de ses missions. Il faudrait chercher sur le web. Hein. Je voulais chercher à mes auditeurs. Allez, à toi.
Alors, la deuxième citation, moi, c'est sur le rôle de la DSI, hein, très très important. Donc, je cite, le premier défi est la posture de la DSI. Nous ne sommes pas un fournisseur des métiers, mais un business partner. Nous ne devons pas attendre une commande, mais anticiper les besoins qui vont s'exprimer. Cela suppose un changement culturel au sein de la DSI. Nous devons explorer de nouveaux usages, exploiter des outils et garantir la résilience, quoi qu'il arrive. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que effectivement, il y a cette idée, si tu veux, de dire d'anticipation des besoins. De dire, mais finalement, voilà, les outils, c'est bien, c'est une bonne chose. Il y a le système d'information, il y a toute une structure à tenir. Hein, ce que tu disais, les DSI, nos amis DSI tiennent la barre. Mais il y a ce côté justement à quoi ça va servir tout ça. Et je pense qu'à partir du moment où les DSI se posent cette question, ils sont clairement sur le bon chemin.
C'est clair, ils sont en tout cas là. Tu as choisi des slogans de force. je vais finir par une phrase qui est un peu plus. À chaque transition technologique, on a la même difficulté d'articulation entre projets de production, avec toujours les mêmes questions de résilience, de sécurité. Et à chaque changement technologique, il faut éviter de se prendre les mêmes murs. N'opposons pas les générations technologiques, elles sont complémentaires. Et alors ça, je trouve ça extrêmement juste parce que, en fait, on est, le digital est tellement en invention qu'on a l'impression que tout se réinvente tout le temps. Le problème, c'est qu'en fait, on peut pas tout détruire et que ce qu'on a construit dans le passé, il faut aussi le maintenir. Et là, on retrouve tout le tenseur qu'il y a dans nos métiers, où finalement, on est, en même temps, on doit tenir le legacy, le passé, parce que les gens veulent que ça tourne. Alors, pourquoi ça tournerait pas? Et d'un autre côté, ils veulent que tout soit nouveau, et avec effectivement le risque qu'associé. Donc là, je trouve toute l'ambiguïté ou la majesté de ce métier, selon qu'on est justement qu'on se lève le matin du bon ou pas du bon pied. Alors moi, les termes que j'ai retenus aussi, tu vois, parce que là, c'est des phrases. Alors vraiment, je vous invite à aller voir hein, ces citations de DSI, parce que je trouve qu'elles, à travers ce verbatim, elles veulent dire beaucoup plus des fois que des analyses qu'on peut faire d'un point de vue conceptuel, parce que là, c'est des hommes et des femmes qui parlent. Moi, j'ai retenu les termes frugalité, multi-cloud, cybersécurité. Voilà, ce sont les trois termes quand même. Mais la frugalité, c'est intéressant parce que ça pourrait être effectivement, et tu sais que c'est un thème qui nous est cher dans Au-delà du live et dans nos discussions justement sur ces alternatives numériques, la frugalité numérique comme étant une autre manière de penser plutôt qu'une informatique trop dispendieuse.
Oui, clairement. Écoute, moi je te propose de terminer sur ce sujet Alain avec une troisième et dernière citation et je la trouve, je suis content de terminer par celle-ci parce que elle remet un peu les cadrans à l'heure. La citation concerne la place de l'utilisateur. Très simple, les utilisateurs sont une préoccupation constante. Les échanges avec eux sont structurés autour de trois piliers, un portail commun, des instances d'échange et une mesure de la satisfaction. Et moi, cette citation, tu vois, je la trouve très intéressante parce qu'il y a ce côté, il faut un portail commun, donc voilà, il faut pouvoir rassembler les collaborateurs de manière collective. Il leur faut des instances d'échange, donc il faut leur donner les canaux qui leur permettront justement de contacter leurs collaborateurs, quels que soient les services, très important. Et surtout, une mesure de la satisfaction, donc juste de ne pas se contenter, si tu veux, de fournir des outils en disant, voilà, t'as l'outil, maintenant tu devrais pouvoir te débrouiller. Non, c'est de dire, est-ce que l'outil en question répond à ta problématique et te permet justement d'être plus performant et d'avoir aussi plus de plaisir dans ton métier et dans la réalisation de tes missions.
Alors après, magnifique phrase, combien d'utilisateurs ou de métiers se trouvent que justement ce sont des vox pux et pas forcément des réalités incarnées, donc on incite en tout cas tous les DSI mais aussi tous les gens qui sont proches de l'aspect technique à se rapprocher de ce DSI pour qui c'est un élément essentiel. Voilà, merci à lui de nous rappeler qu'en fait les systèmes sont faits pour les utilisateurs et non pas pour eux-mêmes. Voilà.
C'est quand même bon de le rappeler clairement. Alors je te propose d'enchaîner Alain avec l'un de nos rendez-vous annuels quotidiens chez Lenspot, hein. C'est la sortie toute récente de l'état de l'art du cabinet Leco, que l'on salue au passage, hein. Voilà, tu vois très bien de quoi je parle. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas au fait, l'état de l'art c'est quoi? C'est une étude qui dresse chaque année le portrait global du marché des solutions collaboratives en France. Donc c'est forcément une étude nous qui nous intéresse un petit peu chez Jamespot et qu'on regarde avec plaisir chaque année. Alors tu as abordé, je le rappelle brièvement, le sujet dans ton dernier live hebdomadaire, Alain, donc le vendredi à 15h dans Bonjour les Spotters. J'aimerais qu'on prenne le temps d'en rediscuter un petit peu. Je vous invite évidemment, chers auditeurs, à aller consulter l'étude sur le site de l'Eco qui est disponible dès maintenant. Si tu devais un peu résumer les éléments qui t'ont marqué pour cette édition 2022, Alain, quels seraient-ils justement?
Écoute, effectivement, c'est déjà le titre. Tu vois, c'est vrai qu'ils ont... Ça a toujours été une question autour des outils collaboratifs. Et le titre, c'est un état de l'art de la transformation interne des entreprises. Quelque part, assumant le fait qu'une entreprise se transforme par ses business models, mais surtout par sa culture interne. Donc ça renvoie bien au fait que les outils de collaboration sont devenus l'élément essentiel aujourd'hui de ce qu'est une transformation d'entreprise, et non pas, comme c'était dans le temps, une marque, un logo ou un site web. Tu vois. Donc ça c'est un premier point. Si on prend un peu de recul, donc après, sur ces 341 pages, ça fait quand même un gros pavé à lire. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est un basculement aussi d'une banalisation de ce que sont aujourd'hui les dominants dans le domaine, en particulier Microsoft et Google. Alors, Microsoft est abondamment cité, mais abondamment critiqué aussi hein, dans cet opus de l'Écho. Sans doute par tout simplement parce que quand on regarde, au bout d'un moment, les outils Microsoft sont peut-être omniprésents, mais ils sont aussi pas forcément si excitants que ça. Ils sont pas toujours au rendez-vous. Ils sont un peu tristounes. Ils sont pas bien intégrés. peuvent être très chers. Voilà. Ils peuvent être aussi fantasques, comme par exemple Viva, le fameux Viva qui va être le Digital Workplace qu'on attend toujours et que l'écho nous dit bah, c'est pas compliqué, soit vous le payez très cher et là vous pouvez le voir, ou alors vous l'avez pas, vous pouvez pas le voir. Enfin, il y a un côté un peu arlésienne de ce Viva. Et ce qui m'amène au fait que la souveraineté, qui était un élément qui n'était pas forcément mis en avant à travers les études l'écho précédentes, là est vraiment abordé de front et prépare finalement les grands comptes, parce que l'écho parle énormément aux grands comptes, à cette transition en leur disant bon, vous avez beaucoup utilisé Microsoft, alors voilà, c'est cher, c'est pas forcément top, puis d'un point de vue souveraineté, en fait, là bientôt c'est vos clients qui vont vous reprocher d'être dessus, donc regardez, il y a des alternatives. Et donc évidemment nous on était ravis de voir ça. Et parce que effectivement, c'est une réalité, tout simplement. C'est une réalité qu'aujourd'hui, les alternatives sont là, elles sont attendues et elles sont aussi très intéressantes dans leur diversité. C'est ce que d'ailleurs montre aussi l'étude l'écho, parce que les différentes solutions alternatives européennes, bah, elles ont toutes leur différenciation, leur force sur la partie plus communication, plus collaboration, plus productivité personnelle, au contraire, faire la part belle à l'organisation ou aux équipes. Et donc, il y a une pluralité qui est vraiment intéressante. Un thème que j'ai pas abordé dans mon live, mais qu'on me l'a abondamment rappelé dans LinkedIn que je l'avais oublié, mais c'est parce que j'en ai tellement parlé, et d'ailleurs on en reparlera encore juste après, c'est le thème du travail hybride. Absolument. Donc pour la deuxième fois, Benoît, je vais pas parler du travail hybride qu'a parlé l'écho, parce qu'on va en reparler juste derrière. Non, mais c'est quand on est tellement baigné là-dedans qu'effectivement ils ont fait un gros travail là-dessus, mais que moi justement j'ai pas rebondi, parce que pour moi c'est un sujet vraiment mainstream. Moins mainstream, j'ai trouvé, c'est que ils ont une position très forte sur la question de l'écologie. Ils assument qu'il faut que les temps changent et que les outils prennent en compte l'écologie by design, et pas seulement face de la compensation carbone, par exemple. C'est ce qu'on fait, par exemple, nous, à Genspot, et d'autres éditeurs font ça.
Oui.
Leur position, c'est de dire non, il faut que ça rentre dans les outils, sinon ça suffit pas. Donc c'est intéressant, parce que du coup, alors évidemment, ils proposent d'ailleurs une solution qui permet de mesurer ça, donc ils sont évidemment jugés partis, mais qui ne l'est pas dans la vie. En tout cas, c'est un aiguillon pour progresser, et on les en remercie par rapport à tout ça. Et puis, je finirai juste en disant que, vu qu'on parle du dernier kilomètre pour le CO2, c'est aussi de s'intéresser aux frontline workers, donc les gens qui sont au contact des clients, en externe, etc. Et donc, on voit une forte propension à cette demande-là. Et c'est là, à nouveau, où nos amis de Microsoft 365 ont plutôt, faut pas oublier, ils ont raté le virage du mobile, hein, très clairement. Ils n'ont jamais été tournés vers le mobile, vers les frontline workers. Eux, ils s'intéressent aux gens qui sont derrière un ordi. Je rappelle que l'idée de Bill Gates, c'était un ordinateur dans chacune des maisons et des...
Oui, absolument.
Voilà, c'était ça, des maisons et du travail. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec Windows. Donc, quelque part, frontline workers, je pense que c'est au-delà de son imaginaire, même si il est loin d'être bête, hein, cet homme-là. Donc, ça ouvre aussi, et c'est pour ça que les alternatives que nous sommes, typiquement, sur tout ça, on est en train de gagner des points par rapport à Microsoft, qui préfère rester tranquillement derrière les ordis, dans les bureaux feutrés. Voilà, ce qui est de moins en moins le cas de nous tous. Donc, en tout cas, encore bravo l'écho, gros boulot, parce que finalement, en creux, ils montrent que le monde est en train de changer et que ce qui paraissait inexorable, il faut aller sur Microsoft 365, sinon on est mort.
Absolument, oui.
Voilà,
oui.
Rappelle-toi que moi, je disais, mais non, on n'est pas mort. D'ailleurs, depuis, on a fait 30% de croissance de tous les ans. Tiens, c'est marrant. Enfin, moi, j'aime bien mourir comme ça, c'est mourir. Mais tu vois, c'est une mort, je trouve.
C'est agréable.
c'est pas mal, hein, ouais, voilà.
C'est plutôt pas mal.
donc oui, c'est pas la fin de l'histoire, et ça, on le sait. Et ça renvoie à cette fameuse phrase de DSI. À chaque fois qu'on amène des nouveautés, on a l'impression qu'on va tout changer. C'est pas vrai. Il y a des choses qui restent. Et d'ailleurs, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'on est dans un marché en expansion. Donc, en fait, il faut arrêter de penser qu'on est en train de se manger le gâteau des uns des autres. En fait, le gâteau numérique est en train de croître, et il s'arrêtera de croître quand il aura mangé 100% du PIB mondial. On a un peu de marge.
Oui, clairement. Je rebondirai sur ce que tu viens de dire avec justement une autre citation d'un de nos amis DSI qui disait, à très juste titre, « Nous avons réalisé qu'il n'y avait pas une solution unique pour répondre à tout. Nous sommes obligés de morceler la digitalisation. C'est une vraie tendance pour apporter de la valeur. » Donc, c'est une déclaration qui va dans
ce sens. Qui va droit au cœur. Mais tu vois, pour le coup, Dieu sait. Alors ça, c'est un combat avec l'écho.
Ah oui, clairement.
Le combat, rappelle-toi, est-ce qu'il faut, alors c'était à l'époque réseau social d'entreprise, il faut-il un seul RSE ou plusieurs RSE? On a fait un nombre de webinaires là-dessus. Bon, moi, j'étais très partisan de la diversité. Je suis un partisan de la diversité, y compris de cohabitation avec nos amis américains. Et surtout pas d'exclusion. Bah voilà, donc je suis content que le DSI lui-même dise, bah oui. Mais tu vois, il le vit comme un renoncement. Ah, il a fallu morceler. Ah, c'est ah, terrible. Oui, c'est... Bah, tu sais quoi, mon gars, tu vas vivre dans une seule pièce, tu vois, comme à l'époque avec les animaux. Hein, on vivait la chambre, la salle à manger, les toilettes, tout ça, c'est dans une seule pièce. Quel bonheur! Pas non, oui. On a fabriqué des pièces différentes et puis on a mis les animaux dans les étables. Et tu sais quoi, c'était vachement plus agréable. Et puis on peut avoir un peu d'intimité et puis on peut avoir du coup des pièces de vie, etc. etc. Donc oui, la diversité, c'est la richesse. Au contraire, c'est la pauvreté. Hein. Celui qui vit dans une étable, il est pauvre. Celui qui a plusieurs outils, il est riche. Voilà.
Merci beaucoup Alain, l'état de l'art de l'écho édition 2022, comme on le disait, disponible dès maintenant sur le site de l'écho, donc n'hésitez pas à aller le voir, comme Alain l'a dit, c'est quand même un gros pavé de plus de 300 pages, et très intéressant à lire. On enchaîne Alain, sans transition, au sujet suivant qui s'intéresse à un domaine dont tu en as rapidement parlé, que les organisations connaissent aujourd'hui très bien, hein, suite aux deux dernières années qu'on vient de vivre. Le travail hybride. Alors, une enquête menée par OpinionWay, qui est une entreprise de sondage et d'études marketing et politique, qui montre à travers différents chiffres que le travail à distance, le travail de format hybride, donc ce mélange de télétravail et de présentiel, est désormais bien installé dans les entreprises. Donc, quelques chiffres, plus d'un répondant sur deux est en télétravail au moins partiellement depuis le mois de septembre de 2021. 69% des sondés ont indiqué que leur entreprise fonctionne au moins partiellement en télétravail. Seulement 10% sont revenus au travail au bureau à temps plein. Donc, clairement, on voit que le format hybride maintenant, c'était évidemment une des grandes questions en 2020 ou en 2021. Ah, est-ce qu'on va revenir au bureau? Est-ce qu'on va rester en télétravail? Ça, c'est le premier axe présenté par l'étude. Et un deuxième très intéressant, comme quoi l'usage des différents outils collaboratifs s'est quant à lui nettement développé. 52% des salariés estiment se servir davantage des applications de visioconférence, 43% des messageries instantanées, 39% des outils de gestion de documents collaboratifs, et enfin 27% des plateformes collaboratives qui, on le rappelle, combinent l'ensemble de ces différentes fonctionnalités. Alors, le travail hybride est bien installé, les outils collaboratifs sont de plus en plus adoptés. Bah, moi, je ne sais pas pour toi, Alain, mais moi, j'aime bien cette étude, tu vois, ça, c'est plutôt encourageant. Qu'est-ce que tu en penses ?
Benoît, dis-moi, est-ce que tu es un manager ?
Est-ce que je suis un manager
Parce que les managers, tu trouves cette étude formidable, les managers sont un peu encore hostiles. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude aussi. On retrouve l'autre axe, parce que tu vois, tu as entièrement dit, la réalité a amené dans le travail hybride, les outils sont là et de plus en plus utilisés. Effectivement, ce 27% pour les plateformes collaboratives est un chiffre qui est vraiment en forte progression. Mais on a toujours des managers hostiles. Alors c'est que vrai. Leurs employés trouvent que le temps de trajet... 45%, ça améliore largement le temps de trajet. 39%, plus d'autonomie. Alors, c'est peut-être ça le problème. Hein. C'est que du coup, comme les gens trouvent qu'ils ont plus d'autonomie, il y a des managers qui ont un peu du mal. Donc, en fait, on retrouve un triptyque entre contexte, sociologie et outils. Mm-hmm. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre ces trois éléments. Une sociologie qui était en France pas positive du tout au télétravail. Hein, le télétravail a très mauvaise presse. Les gens qui télétravaillent, c'est des feignants, tu vois, voilà.
Oui, c'est vrai que c'est...
Et ça, c'est pensé par la sociologie générale, et dont les managers et les patrons en particulier, et des outils qui viennent justement compenser ça. Alors, c'est pour ça qu'il y a aussi des outils de contrôle qui se mettent en place dans le travail hybride. On a quand même ça hein, aussi qui se met en place. Et ça, j'espère que ça va, par contre, disparaître. Donc, voilà, une situation dans laquelle, j'ai envie de dire, si on regarde, les employés sont contents, les outils progressent, et il ne reste plus qu'à faire progresser le corps managérial. Voilà. Donc, c'est là où il faut porter l'effort en faisant du lâcher-prise, de la formation, et pas en méprisant les gens qui ont peur. Moi, je pense que les gens qui ont peur, c'est qu'ils ne savent pas faire, tout simplement. Il ne faut pas les culpabiliser. Un manager qui est perdu face à ses troupes parce qu'il avait l'habitude de taper dans le dos et de sentir de manière très fine ce qui se passait dans l'open space, effectivement, on lui enlève une capacité qu'il avait. Bah, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, on lui enlève une armure, il a peur et c'est normal. Donc, il faut qu'on lui en retrouve une autre, un autre système magique. Donc, moi, ce que je dis à tout le monde, employé, quand vous avez un manager stressé, déstressez-le, parce que vous aussi, vous devez apprendre à votre manager à travailler mieux dans le digital. Et vous, dirigeant d'entreprise, votre rôle, c'est de former vos managers le plus vite possible.
Merci Alain, voilà, l'accompagnement dans le numérique, toujours aussi essentiel, hein, c'est ce que nous montre en partie cette étude. On n'en a pas encore terminé avec les chiffres, Alain, puisqu'on va parler à présent d'une deuxième étude, hein, vous le savez,
chers auditeurs. Sur les chiffres.
On aime bien les chiffres, on aime bien les études dans au-delà du live, ça indique pas mal de choses. Alors celle-ci, elle est quand même un peu moins réjouissante sur certains points, puisqu'elle s'intéresse au déficit de formation IT au sein des organisations. C'est une étude qui a été réalisée par la plateforme d'apprentissage Udacity, et qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut Ipsos, très connu, auprès de 2000 dirigeants et plus de 4000 collaborateurs. Alors, c'est ça qui est intéressant, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. Et c'est une étude qui pointe du doigt, en fait, un retard dans le développement des projets IT des organisations, non pas provoqué par un manque de motivation, mais par un manque de professionnels qualifiés. Et cette situation, elle irait jusqu'à mettre en péril la compétitivité des organisations, quels que soient les pays étudiés. Pour le coup, hein, en France, c'est 63% des dirigeants qui déclarent que le manque de compétences IT a un impact allant de modéré à majeur sur leur activité. En Allemagne, c'est 63%, 57% aux États-Unis, 55% au Royaume-Uni. Donc, un constat vraiment partagé par bon nombre de pays occidentaux. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alain, sur toi, justement, ce manque de professionnels qualifiés?
Bah, déjà, pour une fois, on fait le même chiffre que l'Allemagne, donc on va arrêter de se voir comme plus faible que nos amis allemands qui ont.
C'est vrai.
Voilà. Donc ça, non, mais ça, c'est une joke, mais qui permet aussi de rééquilibrer les chakras pour pas penser que c'est toujours un problème français.
Oui, clairement.
Ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, par contre, c'est que c'est un problème mondial qui a été totalement sous-estimé. Il faut voir que même dans la période 2010-2020, alors qu'on savait qu'il y allait avoir une pénurie d'ingénieurs dans le domaine numérique, eh ben on n'a pas créé de nouvelles écoles à foison. Et que les écoles qui ont été créées plutôt sur le côté par des organismes plutôt privés, ou, comme Simplon, comme la 42, l'école de Xavier Niel, ou le Wagon, des structures d'ailleurs qui ont été cherchées dans le social pour patcher ça. Et en fait, on a raison, mais simplement on fait une erreur magistrale, c'est de ne pas mettre en avant le numérique comme un élément clé, et y compris, alors là, je ne sais pas, je veux pas stigmatiser la réforme ou quoi, mais là, il y a un effondrement en particulier des femmes en terminale sur les filières scientifiques et en maths. Ça, c'est un problème qui va se retrouver dans 5 ans ou dans 7 ans, parce que 2 ans, 7 ans, dans les bacs plus 5 de type numérique. Très scientifique. Donc, il nous faut plus de femmes, il faut plus de formation, il faut vraiment là-dessus mettre à l'exergue la filière d'excellence numérique. Et le pire, en plus, c'est que, justement, il n'y a aucun chômage dans ces filières-là aujourd'hui. Donc, quelque chose de très profond, mais on reste encore en France avec l'idée que, bon, bah, quand tu fais numérique, t'es quand même un peu ingénieur informaticien, un peu ridicule. Ça commence un petit peu à reprendre du galon, quand même, parce qu'on on arrête de se moquer de moi parce que j'ai fait des études d'informatique, mais c'est quand même encore mieux de faire Sciences Po. Ouais. En France, c'est quand même encore mieux. Ben, moi, je pense que tant qu'on n'aura pas inversé ce ratio-là, et encore une fois, j'ai rien contre Sciences Po, hein, c'est juste pour dire que la structuration mentale du monde des 30 prochaines années se fera par la blockchain, les DAO, par le métavers, par les questions algorithmiques, par les monnaies, les cryptos, et pas par la loi et par des gens qui sont seulement dans un rapport législatif au monde. Voilà, le monde sera algorithme. Donc oui, on a une urgence à former nos élites si on veut basculer dans l'ère numérique.
Et est-ce que tu penses, pour terminer sur le sujet, parce que comme disait l'étude, c'est justement, tu l'as dit au début, c'est pas seulement un problème franco-français, comment ça se fait d'après toi qu'on retrouve justement cette problématique et ce constat dans bon nombre de pays développés? Est-ce que pour toi, justement, il y a ce problème de perception du numérique et des enjeux qu'il porte pour les années à venir, bah, il est aussi mal perçu
perçu. Mais c'est juste parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que pour éduquer quelqu'un, en fait, tu penses que tu l'éduques sur la fin, mais ce n'est pas vrai. C'est quand il est tout petit que tu lui dis que c'est ça qu'il va faire plus tard. Et donc, c'est la question de quels sont nos modèles sociaux. Tu vois? Et donc, les modèles sociaux, à supposer que, tu vois, je dis ça y est, maintenant c'est positif d'être dans le numérique aujourd'hui en 2022, ça veut dire que les enfants qui sont en maternelle ou en école primaire, c'est maintenant qu'on leur dit que ça va être super.
Oui.
Et donc, on les aura dans 20 ans. Donc, le problème, c'est comment tu gères l'entre-deux. Et là, tu es obligé de faire effectivement de l'incitation éducative, fiscale, tout ce que tu veux. Et là, par contre, on ne le fait pas. Donc, on forme encore des bataillons de gens qui vont en psycho, en socio, en histoire, en université, alors qu'on devrait dire, non. Là, si vous allez là, vous allez avoir une chance sur 10 d'avoir un job. Par contre, là, à côté, il y a un truc de dingue.
D'accord.
Et qu'on le répète tous les jours. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas du tout ce qu'on fait. On est dans un rapport un peu... tu verras bien.
Voilà. Oui.
Et après, on se retrouve avec des gens de 35 ans qui essaient de se reformer et qui sont tout malheureux. Mais pourtant, c'est bien de changer de vie. Mais le problème, c'est qu'ils le font dans la douleur. Ils le font pas justement forcément dans le plaisir ou dans l'acceptation. Donc, il faut travailler beaucoup plus tôt que ça. Et en particulier, moi, je pense aussi dans une logique de dégenrer le numérique. Voilà, plus de femmes autour de ces questions-là.
Merci Alain. Alors sans transition, à présent on attaque le dernier sujet de ce 18e épisode avant de terminer, comme vous le savez et comme le veut la coutume, par la surprise du mois. Un sujet qui a provoqué pas mal de remous pour le coup, c'est le jugement le 17 janvier dernier de Twitter par le procureur de Versailles pour ne pas avoir aidé la justice à identifier des utilisateurs de messages injurieux visant un responsable de la préfecture des Yvelines. Deux infractions ont été retenues, le refus de répondre à une réquisition et la complicité d'injures publiques. L'amende maximale a été requise par le dit procureur pour réprimer Twitter France, mais également son directeur général, Damien Vielle. Le jugement en question sera rendu le 21 mars prochain, donc écoute, là on aura sans doute l'occasion d'en reparler pour l'épisode de Daladu Live de début avril. Un réseau social de la taille de Twitter qui est là pour le coup frontalement amené devant la justice française. Qu'est-ce que ça t'évoque toi? Comment tu vois la chose?
Bah, ça m'évoque qu'on est bien un choc de culture. On a d'un côté le fait que ces réseaux ont construit finalement une gouvernance et une acceptabilité de ce qui est sur leur plateforme qui leur est propre et qui n'a rien à voir avec notre droit. C'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de se jouer le DSA qui va justement au niveau européen, le Digital Service Act,
absolument.
Qui devrait justement mettre ça à l'ordre du jour. Mais c'est qu'en fait, Twitter, par son mécanisme interne, va supprimer la moindre photo de nichon, même si c'est pour montrer des problèmes de ma mère, par exemple, tu vois. Et d'un autre côté, va laisser des phrases, je ne vais pas les lire, ça j'ai le texte sous les yeux, mais je ne voudrais pas le lire, qui sont effectivement injurieux et qui sont même des appels des fois à la haine. Là c'est un appel même au meurtre. Voilà, comme ça, c'est plus simple. De ce fameux préfet des Yvelines. Donc on voit bien, il y a à un moment donné une coupure, une cassure dans le contrat social. C'est-à-dire que je te parlais des Sciences Po qui font des lois. Enfin, j'ai rien contre les Sciences Po, hein, c'est pour pas les énarques, mais ça y est, l'école est arrêtée. Enfin, en tout cas, des gens qui construisent la loi et de l'autre, des algorithmes qui définissent une autre loi. Voilà. Et on voit bien le schisme qui est en train de se faire vis-à-vis de ça. Donc, il faut évidemment redonner de la suprématie du droit sur les sociétés comme Twitter, TikTok et compagnie, et puis Facebook, bien sûr. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là. Il faut aussi comprendre l'algorithme qui est derrière, comment est-ce qu'on met en place des systèmes de filtrage, des systèmes justement qui ne soient pas stupides et qui vont finalement faire plus de mal que de bien, c'est-à-dire vont créer de la censure pour les gens bien qui n'oseront pas publier un truc, et que les gens qui n'ont rien à faire et qui se cachent derrière deux VPN dans le dark web, iront faire ce qu'ils veulent, tu vois. Donc on voit que c'est en ce sens-là où il y a une connaissance technique très profonde à avoir. En attendant, Twitter ne lâche pas. Et c'est là où on voit encore qu'ils sont vraiment dans une logique extraterritoriale. Et je suis persuadé que, presque sûr que, comme d'habitude, ils paieront des petites amendes et puis, en fait, ils s'en moquent un peu. Au fond, on l'a vu assez souvent, ils vivent au-dessus des lois, voilà, très clairement, et que même quand on les touche au portefeuille, en fait, ça leur fait juste donner deux, trois pièces jaunes, et puis on n'en parle plus, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ce que ça me fait penser, et je dirais quand même qu'en revanche, n'oublions pas que la liberté d'opinion est aussi essentielle. Parce que moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'à vouloir trop mettre cette question de censure, on va finir par créer une politique de la censure, comme on l'avait dans le temps, et dont on s'était extrait petit à petit par, j'ai envie de dire plutôt par civilisation. Donc j'aimerais qu'on sorte par le haut par civilité plutôt que par le bas, par suppression, contrôle a priori, police de la pensée, enfin tout ce qui m'envoie des choses qui me plaisent pas beaucoup non plus.
Oui, et puis ça renvoie directement au sujet précédent, en fait, ce que tu disais de comprendre les algorithmes, comprendre la puissance de tout le numérique à ce niveau-là, des réseaux, etc. Mmh. Ça, justement, ça renvoie au sujet de l'éducation et le fait d'éduquer nos jeunes pousses, justement, pour leur faire comprendre l'importance de ce monde numérique qui est encore trop souvent mis sur le côté ou sous-estimé. Merci Alain. Et ben écoute, on va pouvoir clôturer avec.
Mais oui, alors justement, et voilà, on est à 30 minutes, ce qui est voilà, et à 30 minutes, dans 5 secondes, nous allons avoir la surprise que nous a prévue Benoît. Alors, c'est quoi la surprise que tu nous as concoctée pour cette fin de Au-delà du live numéro 18? Je rappelle, on peut nous retrouver sur tous les podcasts qui sont sur Anchor, qui sont sur Spotify, Apple, enfin toutes les plateformes qui diffusent ces podcasts. Donc, Benoît, dis-nous tout.
Alors, écoute Alain, la surprise du mois de janvier, elle nous vient d'un podcast réalisé par Les Échos, qui a dressé un constat quand même assez positif sur l'évolution de la French Tech au cours de l'année 2021. Voilà, on va clôturer cet épisode en parlant sans doute une dernière fois de l'année précédente.
Allez.
Je vais citer pour le coup Guillaume Bréjoras, qui est le chef du service startup aux Échos, et qui nous dit « Il y a vraiment un tournant qui s'est opéré au sein de la French Tech en 2021. L'ensemble des startups ont levé plus de 10 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. » Ce qui est un record absolu, quasiment le double de l'année précédente. On n'avait jamais vu ça dans cet écosystème. Ça reflète tout un tas de choses structurelles qui sont bien parties pour durer. Et je terminerai en précisant qu'il ne s'agit pas d'un phénomène purement franco-français, comme le mentionne le podcast, mais bien mondial, puisque rien qu'à l'échelle de l'Europe, on parle de 100 milliards d'euros levés. On voit un vrai engouement, Alain, autour de toutes les startups technologiques qui lèvent qui sont de plus en plus nombreuses à lever des fonds. Est-ce que toi, tu dresserais un constat aussi positif en regardant le marché, ou est-ce que tu nuancerais quand même un petit peu le propos?
Ah, écoute, 10 milliards, moi, je les prends, hein, tu vois. Je pensais que c'était ça la surprise, que tu allais dire, voilà, les 10 milliards vont aller sur le compte d'un euro gagnant qui va donner son numéro. Alors là, tout d'un coup, on avait le standard qui allait exploser, Benoît, parce que tout le monde voulait avoir les 10 milliards.
La loterie.
Donc non, ils sont allés dans les licornes, ce qui est très bien. Oui, alors là où je nuancerai, déjà, c'est un tournant, il a raison. Et il faut pas bouder son plaisir. La tech n'a jamais été autant financée, autant respectée, autant en vue. Très bien. Après, sur l'action de la souveraineté numérique, tu sais qui m'est cher, ces 10 milliards, en fait, vont plutôt sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qu'on dit innovantes, mais elles sont innovantes sur des processus anciens qui étaient en place et sur l'économie européenne. Tu vois, je sais pas, moi, si on pense à Alan ou Payfit, en fait, ils vont vendre ce que vendaient avant les experts comptables ou ce que vendent Malakoff Médéric. Donc, en fait, on est en train d'aller remplacer ça par des nouvelles pousses. Et alors ça, on dit « Ah, c'est super !» Sauf que du coup, elles sont intégralement sur les stacks américaines, hein, elles tournent sur la AWS, elles achètent du Google AdWords, et puis elles ont à bout d'un moment des fonds américains à leur board. Donc finalement, on risque de détruire notre vieille économie pour la confier aux Américains, parce qu'on ne s'est pas occupé de ce qu'il y a en dessous. Parce que regarde, si ce que je te dis, au lieu de dire AWS, tu dis OVH, et au lieu de dire Google AdWords, je te dirais par exemple... je sais pas moi, le Figaro Ads, je dis n'importe quoi, et bah du coup, tout d'un coup, bah oui, l'argent qu'on met dans ces boîtes-là redescendrait dans l'économie française ou européenne. C'est pas le cas. Donc attention, on est en train de prendre les parties les plus rapides à transformer d'un point de vue digital pour cette transformation, mais des fois en détruisant une vieille économie qui en a bien besoin, parce que ça lui botte un peu les fesses, mais par contre, en la confiant aux Américains, ce qui est voilà, transférer Malakoff Médéric ou la CNP aux Américains et aux fonds de pension, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Or, c'est ce qui pourrait arriver à travers ces opérations licorne. Tu vois, voilà où est mon risque. Donc, ce que j'attends, moi, de la prochaine mandature, parce qu'il paraît qu'il y aura un président bientôt, c'est que justement, il s'intéresse non pas aux feuilles des arbres, mais aux racines des arbres. Voilà. Et les racines, c'est la techno, les outils qui restent, le long terme, et pas juste, effectivement, un modèle purement mercantile qui est en surface. Voilà.
Merci Alain. Oui, effectivement, on en revient toujours un peu au même problème, justement, les startups qui se développent en France, mais qui ensuite migrent vers les États-Unis. Et ben merci Alain, merci beaucoup.
Non, mais merci à toi pour cette surprise de 10 milliards. Donc je rappelle à nos auditeurs, vous demandez à Benoît, j'ai pas donné son 06, et vous avez une chance sur 10 milliards de gagner 10 milliards. Tu vois, c'est une bonne façon de voir le problème.
Eh ben écoute, c'est très bien. Je pense qu'on va avoir donc pas mal d'auditeurs pour l'épisode 19 le mois prochain. Tu vois,
tu vois, c'est pas difficile, un peu de marketing et d'autopromo. Écoute, voilà, c'était écoute encore un plaisir d'enregistrer ça avec toi. On l'attend vivement justement sur toutes les plateformes, hein, au-delà du live, toujours une vision alternative numérique. On aura également Alternative Numérique, l'émission avec nos invités qui va bientôt arriver. Bonjour les spotters tous les vendredis, et puis également les podcast experts, hein, dont tu assures toujours justement avec des différentes personnes. On a plein de gens là qu'on va recevoir dans les podcast experts. C'est vraiment intéressant. Cette saison 2022 de toute façon démarre sur les chapeaux de roue, comme tu l'as dit. Donc
exactement, Alain. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur toutes vos plateformes préférées. Il y a beaucoup d'émissions qui arrivent pour cette nouvelle année. Donc, on est très content avec Alain de reprendre le flambeau et de vous proposer plein d'actualités sur le numérique.
Et voilà, et toujours de manière alternative, hein, bien sûr.
Toujours.
Donc, sur ce, merci encore Benoît. Merci à vous de nous avoir écoutés. 35 minutes, on peut rendre l'antenne.